Vous écoutez le podcast numéro 1 à Montréal. Vous aimez ça le sport? Ils ont des opinions sur n'importe qui, n'importe quoi. Vous écoutez Droit au but. Voici vos animateurs, Gabino DeFalco et Jean-François Dos Santos.
Oh yeah!
Qui doit-on montrer du doigt pour les insuccès du Canadien cette année?
Eh mon Dieu, il y en a plusieurs.
Il y en a plusieurs. Montrer. T'as pas assez de doigts.
Voracek for the shot, they score!
Disons que moi, la saison du Canadien, selon moi, c'est un désastre.
Ce que je suis rendu, c'est-tu quelque chose de mental?
L'erreur magistrale demeure d'échange de Piquet-Souban.
Ian Couturier, off to Giroud, down low, connect, he scores!
Moi, je pense que le premier coupable, c'est peut-être Bergevin.
Je suis pas prêt à pointer du doigt.
Tu veux plus bâtir une équipe dans le hockey moderne d'aujourd'hui en partant par en arrière.
Jouer Asner, ou jouer Ben, ou jouer Schlemko et compagnie. Voyons donc, c'est pas des défenseurs de la Ligue nationale.
The clock is ticking.
Quand bien même tu voudrais aller aux courses, tu n'as pas les chevaux.
On n'a rien changé, là. Alors, at some point, the player has to take ownership.
Lundi 12 février 2018, chers auditeurs, bienvenue à la 21e émission du podcast Droit au but. Mon nom est Gavino DeFalco et comme à chaque semaine, je suis accompagné de mon co-animateur Jean-François Dos Santos. JF, comment ça va?
Ça va super bien, merci. Et toi?
Oui, ça va super bien. Comme ça, as-tu aimé ton pelletage quotidien cette semaine?
Oui, ça, je commence à être tanné. Je sais plus où la mettre, la neige, j'en ai tellement.
Il n'y a plus place. Il n'y a plus de place. Même mon déneigeur, écoute, je suis rendu avec une grosse montagne en avant de la maison, ça n'a plus de bon sens.
Après moi, on pourrait peut-être s'inscrire au comité olympique puis organiser les prochaines Olympiades.
Oui, c'est une super bonne idée. Tout d'abord, j'aimerais ça vous mentionner, chers auditeurs, que notre émission est diffusée sur Radio Média Plus et depuis une semaine sur versusradio.net. Donc, merci de nous faire confiance.
Merci à tout le monde de nous écouter, c'est le fun.
Et c'est vraiment cool. Jeff, qu'est-ce qui a retenu ton attention cette semaine dans l'actualité?
Le retour de Piqué.
Eh oui, hein, Piqué-Souban. Grand retour à Montréal. C'était un match qu'on pouvait pas manquer. J'espère que tu l'avais encerclé sur ton calendrier.
Tout à fait. Ça fait longtemps que la date est réservée.
Puis, comment t'as trouvé notre ancien joueur?
Il est bon, comme toujours. Il est flamboyant. Plus flamboyant qu'à l'habitude, je te dirais. Mm-hmm. Par contre, dans tout ça, là, j'ai aimé Gallagher qui a levé son jeu d'un cran puis qui a dit, écoute, toi, t'es rendu plus gros que notre club. Non. Je vais essayer de tout donner pour te rabaisser à ce que tu es vraiment.
OK.
Puis ça, j'y lève mon chapeau.
Mais quand même, Gallagher qui a montré du sang-froid hier. C'est le seul, je pense, qui a montré de l'émotion dans ce match-là.
Prochain capitaine du Canadien.
T'allais dire à Piqué, regarde, tu feras pas la loi ici chez nous, là. This is our house, là.
C'est ça qu'il a dit. Prochain capitaine du Canadien, là.
Puis ça, on l'avait dit, je pense, dans la première émission du show, du podcast Droit au but. Gallagher devrait être le capitaine du Canadien, là, au lieu de Max Périphéry, là.
Le gars, il est tout petit, il a du chien, il donne tout ce qu'il a, puis il l'a démontré, là. Il dit, gars, moi, c'est pas vrai que tu vas venir chez nous rire de moi, là.
Écoute, deux défaites pour le Canadien cette semaine. Et maintenant, beaucoup de rumeurs qui impliquent des joueurs, notamment Plekanec, Pacioretty, même Galchenyuk. Et écoute, la date limite de transaction, c'est dans deux lundis, là, le 26 février.
On aura une émission spéciale là-dessus, justement, dans deux semaines.
Absolument.
Mais oui, ça approche à grands pas. Là. Écoute, Plekanec, c'est des rumeurs qui s'en vont à San Jose. Pacioretty, s'en va un peu n'importe où.
Plekanec à San Jose.
Apparemment, ce serait la solution. Ben, je sais pas.
Contre Joe Thornton?
Ben non, on va aller chercher un choix.
Oui, c'est vrai, un choix. J'espère que ça va être un choix de deuxième ronde parce que, écoutez, toutes les équipes au trade deadline, ils échangent des joueurs, vont toujours chercher des choix de deuxième ronde. Pourquoi qu'on serait pas capable, nous autres?
Écoute, Bergevin, il pourrait être bien placé, là. Pourquoi pas aller chercher un choix de première ronde? Comme troisième centre, là. Ouais, Canette, c'est tout un joueur, là. Puis en plus, avec tout l'argent que tu as disponible sur la masse, tu peux dire, gars, on fait un cadeau, on vous l'envoie. Puis ça vous coûte zéro sa masse, on retient le salaire.
Absolument. Puis il y a une statistique là, qui ment pas dans le cas de Plekanec. Savais-tu que je pense que c'était le deuxième joueur avec plus de points que le Canadien à 5 contre 5? Le gars, il joue plus en power play. Je pense qu'il y a une vingtaine de points à 5 contre 5. Quand même assez remarquable, assez intéressant du côté de Plekanec. Mais là, Pacioretty, Est-ce que c'est le temps de l'échanger? Qu'est-ce qu'on fait dans son cas, là?
Écoute, il va s'en aller ailleurs, il va exploser, probablement. Est-ce que c'est vraiment le leader que tu as besoin? Je sais pas. C'est que ça dépend de la vision de l'équipe. Si tu arrives et tu te dis, moi, je vais aller chercher Tavares, puis tu gardes Pacioretty, ça va faire
ouais, des flamèches. Mais là, la rumeur de cette semaine, le Ryan McDonagh contre Max Pacioretty, moi, je le ferais pas, ce trade-là.
Moi, je le ferais tout de suite.
Ben, pourquoi?
Ben, pourquoi pas?
Tu vas aller chercher un défenseur correct, qui va jouer sur ta première paire de défense.
Ouais, c'est ça.
Sauf que, parfait, va chercher Ryan McDonagh et change chez Weber.
Ben, oui, mais ça va suivre après.
Ben, j'espère. Parce que tu as besoin d'attaque.
Oui, oui, non.
Encore une fois, le Canadien, c'est pitoyable en attaque, là.
Mais chaque chose
en Paul Byron, c'est ton premier joueur de centre. Ça n'a pas de bon sens.
Non, ça n'a pas de bon sens. Ça, c'est absolument vrai. Mais le petit Paul, lui aussi, il joue au-dessus de sa tête, il donne tout ce qu'il a, puis il n'a pas rien enlevé, là. Mais on s'entend que c'est pas un joueur de premier plan.
Puis Carey Price, qui commence son lucratif contrat l'année prochaine. Deux saisons à 15 millions et ensuite, bon. En tout cas, on fera pas la nomenclature de son contrat, sauf que la façon qu'il a gardé les buts à Philadelphie au milieu de la semaine, c'était quand même ordinaire. Là. Il a pas volé de match cette année, notre Carey national.
Non, on sait pas le Carey qu'on est habitué de voir. Justement, peut-être qu'il nous a habitués, il nous a mal habitués, je te dirais. On est habitué à voir le sauveur, Jesus Price, dans les buts. Ouais. Puis là, ben, on a juste Carey Price.
Cette saison, ça reste à oublier. Jeff, les Olympiques sont commencés. Il me semble que je suis pas dans le beat olympique depuis le début de la semaine.
Non, va dehors, va pelleter, tu vas voir, ça va te mettre dans le beat.
Non, mais sérieusement, étant donné que du décalage horaire et tout ça, je sais pas, j'ai pas la fièvre cette année, toi?
Ben c'est sûr que c'est difficile, tu sais, il y a 14 heures de décalage, t'arrives, tu te lèves, tu regardes des reprises, tu vois jamais rien près ou presque direct, puis les couvertures, c'est spéciaux, tu regardes un canal, ça donne une chose, tu changes de chaîne, ça donne la même affaire, tu changes encore de chaîne, c'est encore la même chose.
Oui, oui, oui.
C'est un petit peu ordinaire, je te dirais, mais bon.
J'ai regardé le 1500 mètres, justement, patinage de vitesse courte piste avec Charles Hamelin. Mm-hmm. Puis, je trouve que c'est un très beau sport, très excitant. Le seul problème, c'est que les fameuses punitions, tu sais, qui pousse qui est pénalisé, on n'en connaît pas encore assez pour juger nous-mêmes dans notre salon, là.
Non, ben, on n'en regarde peut-être pas assez pour pouvoir juger, justement. Il faudrait peut-être s'habituer à regarder plus ces sports-là qu'on n'est pas habitué de voir. On découvre des nouveaux sports. Moi, c'est ça que j'aime. C'est que, justement, je découvre des surfs, des neiges. Je suis pas habitué de regarder ça. Ben, je regarde, puis je suis intéressé par tous les sports.
Ouais. Surf des neiges, on essaye d'aller chercher quand même une clientèle assez jeune là, parce que c'est un sport qui ressemble au skateboard puis tout ça, les X Games puis tout ça, tu vas être d'accord avec moi. Mais y a-t-il un autre sport, toi, que tu vas suivre à part peut-être le hockey olympique, là?
Ben moi, là, c'est niaiseux, là, je trippe curling.
Ah oh, bon. OK.
Non, je te le dis, j'étais allé jouer, là, puis ça a l'air facile, puis si, puis ça, hey, juste rester debout, là. Pis
en lancer, équilibre.
Ouais, puis quand tu te places, tu lances ta pierre, c'est pas facile, là. Lancer la pierre dans la maison, là, je te dis, t'enlèves toutes les pierres, t'as juste besoin de lancer la pierre dans la maison. Je te donne le défi de le faire. Ah, tu vois, c'est pas facile.
Justement, on va en jaser à un moment donné avec un expert de curling. Ça a l'air facile à la télévision, mais comme tu dis, faut l'essayer, là. Y a-tu un autre sport que tu vas suivre?
Aujourd'hui, j'ai regardé le ski acrobatique, les bosses.
Oui.
Féminin.
Oui.
Toute une performance encore de Justine Dufour-Lapointe.
Médaille d'argent, bravo.
Oui, bravo. Écoute, nos Canadiennes, ils ont bien fait.
Encore une fois.
Ça aussi, c'est un sport qui, je ne comprends pas tout à fait, parce que tu as les notes par rapport à la vitesse, par rapport à tout le kit, mais c'est spectaculaire, c'est super le fun. Spectaculaire.
Puis on est toujours bons, les Québécois, dans cette discipline-là. Jeff, on va retrouver le journaliste du Journal de Montréal, Carl Vaillancourt.
Pour nous joindre, visitez la page Facebook Droite au but ou bien sur Twitter podcast Droite au but. Nous attendons vos suggestions et commentaires. Et comme dirait la mascotte des Canadiens, youpi, j'ai tu hâte que le baseball revienne.
On va rejoindre notre collègue Carl Vaillancourt, journaliste au Journal de Montréal. Carl, comment ça va?
Ça va super bien, toi?
Oui, ça va super bien. Carl, la Ligue de développement Midget 3 est sur le point d'amorcer ses séries éliminatoires. Peux-tu nous dresser un portrait des équipes susceptibles de mettre la main sur la fameuse coupe cette année?
Ben écoute, il y a plusieurs équipes là, en ce moment là, qui ont des très bonnes fins de saison. Là, je pense notamment là, au Séminaire Saint-François, formation du Québec, là, qui a un beau mélange là, de vétérans qui reviennent de l'édition l'année dernière. Eux qui avaient participé là, à la Coupe TELUS, eux qui avaient remporté les grands honneurs là, du côté du Québec en séries éliminatoires, eux vont revenir en force. Et on a également là, les cantonniers de Magog qui ont dominé le calendrier régulier. Là, c'est probablement la meilleure équipe, celle qui part favorite pour remporter les séries éliminatoires. Là, ils ont vraiment un beau mélange de deux de jeunes joueurs qui sont très prometteurs, là, qui pourraient être repêchés là, parmi les premiers au prochain repêchage. Là, je pense notamment à Patrick Gay, un attaquant là, qui est au troisième rang des meilleurs pointeurs, quatrième rang des meilleurs pointeurs là, dans le circuit. Deuxième meilleure recrue là, cette année. Écoute, ça va être intéressant de suivre les séries éliminatoires. Il pourrait y avoir de belles surprises également. Là. Il y a des équipes qui ont fini quand même la saison avec des fiches intéressantes. Là. Je pense notamment aux Gaulois du Collège Antoine Girouard, ben, anciennement du Collège Antoine Girouard et maintenant de Saint-Hyacinthe. Puis il y a également là, des équipes comme le Collège Espoir Blondin qui ont toujours des bonnes équipes. Donc, ça va être à surveiller. Là. Je peux pas dire qui, hors de tout doute, va remporter les séries éliminatoires, mais on va avoir des séries excitantes, ça c'est sûr et certain.
Carl, encore une fois cette année, le Midget 3 déborde de joueurs talentueux. D'après toi, quels sont les joueurs à surveiller en vue du prochain repêchage dans la Ligue d'hockey junior majeur du Québec?
Écoute, c'est sûr que comme je t'ai mentionné tantôt, là, j'ai peut-être les deux attaquants les plus en vogue. Là, ça va être il y a Thomas Bordelot là, qui joue en ce moment, là, qui joue du très bon hockey, là, qui est actuellement à 65 points cette saison dans le Midget 3, 15 ans seulement. Là. Lui, il devrait partir très tôt en première ronde. Il y a également Patrick Gay, comme je l'ai mentionné, qui est cantonnier de Magog. Il a une saison exceptionnelle, là, 33 buts, deuxième meilleur buteur du circuit. Et c'est un joueur qui est très rapide, un excellent sens du hockey. Et lui, là, il devrait partir parmi les trois ou quatre premiers choix là, au prochain repêchage. Je vais jamais le comparer là, à Jacob Pelletier, qui avait été sélectionné l'année dernière là, parmi les premiers. Là, c'est un joueur talentueux. Et on a aussi du côté de Saint-Hyacinthe, il y a Eliott Desnoyers, qui lui, là, l'année passée, à 14 ans, avait récolté 18 points en 24 parties. Là, il est à sa deuxième saison cette année. Il a des statistiques similaires, mais c'est un joueur très talentueux. Il a un flair offensif. Et du côté des défenseurs, ben, c'est Jérémy Poirier là, qui vient en tête de liste là, du côté de la Ligue d'hockey Midget 3 du Québec. Là, Jérémy Poirier qui est un joueur talentueux, défenseur là, très mobile. Donc, ça sera surveillé. Et il y a peut-être également William Villeneuve, le coéquipier de Guy, qui joue avec les cantonniers de Magog, qui lui aussi là, est un excellent défenseur, l'un des meilleurs différentiels dans le circuit cette saison. Et il est une recrue de 15 ans. Donc, il sera probablement de retour l'an prochain là, avec l'équipe si jamais il ne réussit pas à percer la formation dans le junior majeur. Ça sera surveillé.
Ça reste à surveiller. Carl, en terminant, je pense que tu as une nouvelle exclusive à nous partager concernant la Coupe TELUS de 2020.
Et oui, écoutez, ça a été mentionné lors du conseil municipal de Saint-Hyacinthe plus tôt cette semaine, là, qu'ils ont eu l'aval, en réalité. Ils donnent l'aval à l'organisation du Gaulois de Saint-Hyacinthe pour accueillir la Coupe TELUS en 2020. Donc, il y a déjà des démarches qui étaient entamées du côté là, de Saint-Hyacinthe et c'est mené par l'homme d'affaires là, qu'on connaît bien quand même au Québec, là, Jean Bédard, qui est le président de l'Organisation des Gaulois de Saint-Hyacinthe, qui lui-même, son garçon Alexandre, son garçon Antoine, ces deux garçons ont joué pour la formation des Gaulois de Saint-Hyacinthe il y a quelques saisons déjà. Et eux vont prétendre à recevoir le tournoi. Là, on sait que cette année, la Coupe TELUS va être du côté de Sudbury, en Ontario. Et l'an prochain également, ce sera en Ontario. Donc, on ramènerait la Coupe au Québec là, en 2020, donc ça va être à surveiller. On devrait avoir plus de détails, ça va s'officialiser probablement dans les prochains mois. Il y a quand même là, une mise en candidature, il y a plusieurs éléments là, qui devront être améliorés du côté de Saint-Hyacinthe. Si on veut espérer obtenir le tournoi, mais on reste content tout de même d'avoir le tournoi en 2020 du côté la région mascoutienne.
Oui, parce qu'on vous rappelle cette année que la Coupe TELUS se tiendra à Sudbury du 23 au 29 avril prochain. Carl Vaillancourt, journaliste du Journal de Montréal, un gros merci, puis on se reparle la semaine prochaine.
Certainement.
Personnage coloré de la scène sportive montréalaise. Oh oui! Son énergie est époustouflante. Avec lui, on ne reste pas sur sa soif. Voici le commentaire du Père Noël.
Gallagher!
Écoute, le Père Noël, une prise de bec entre Gallagher et Piqué-Souban samedi soir au Centre Bell. T'as-tu aimé ça?
Hey, tout un show quand même hier soir au Centre Bell. La foule qui était là, il y en a eu pour l'argent. Gallagher, il est gros comme trois pommes. Il rentre dans le coin de patinoire comme un crinqué. Il s'est fait scratcher à la face deux fois. Mais on va dire de quoi? Le joueur du match, c'est Brendan Gallagher. Gros spectacle avec Piqué-Souban hier soir au Centre Bell.
Sauf que Piqué-Souban, on s'en ennuie un petit peu à Montréal. On a vu hier, bon, il a disputé quand même un match respectable, mais on le prendrait à Montréal là, dans notre line-up. Là. Qu'est-ce que t'en penses, Père Noël?
Bon, c'est sûr que ces défenseurs canadiens ont, comme qu'on a vu là, hier soir, deux hot dogs, une patate, là, Piquet Souben, il en donne pour leur argent aux partisans du Canadien, mais c'est correct, là. Y a pas de problème avec ça. Là. L'échange Weber Piquet Souben, y a pas de problème avec ça non plus.
Comment t'as trouvé le combat de Simon Keane hier face à Alexis Santos?
Hey boy! Hier soir, là, c'était à Shawinigan le combat. On va dire de quoi? 6 pieds 5, 200 quelques livres. Simon Keane a amené là, à l'entraque de la gang canadienne à Nashville, Nathalie Bruno, et ont monté une petite entrevue. On va dire de quoi? Il a sorti son point. On va dire de quoi? Quand il pogne sa face direct avec un point direct sur le caisseur, comme dirait Guémon, là, on va dire de quoi? Flex sur flex, là où ça fait mal. Il est grand, il est gros, mais je trouve que Simon Keane a besoin d'un petit peu des cours de claquettes ou quelque chose de même pour danser un petit peu, mais il y a du potentiel, le jeune quand même. J'aimerais ça le voir dans un gros combat, Simon Keane.
Ouais, mais avant que ça arrive, je pense qu'il va falloir qu'il travaille justement son jeu de pied parce que ça faisait pitié, je trouve.
Ben, qu'est-ce que j'ai aimé dans ce combat-là, les boys, là, c'est que Santos, là, il arrêta pas de craquer Simon Keane, il arrêta pas de jaser. Ah ouais, le grand, amène-la ta garnotte, je suis prêt à leur savoir direct dans le front. Mais bon combat, bon spectacle, là, à deux biens par round, là, on va dire de quoi, là, ça rentrait bien un soir.
Ils sont comme ça, les Santos, hein, ils ont peur de rien, puis aiment ça, ça faire aller, là.
Père Noël.
Il y en a qui sont solides. On peut pas dire qu'ils sont bâtis sur des frames de maringouins, les Santos. On va leur en donner une pour eux autres quand même.
Père Noël, j'ai une question pour toi. On sait que la semaine dernière, au Super Bowl des Chums avec Jean-Charles Lajoie, t'as sauté d'un escabeau afin de briser une table en deux. Les auditeurs se demandent comment tu vas.
Ah, ça va popper les boys. Ça m'a coûté 250$ de chiro, 150$ de massage, puis une coupe de bière, moi, dire de quoi, là. Oh, mon boy, le Père Noël, il est plus rendu jeune. L'année prochaine, je pense, mec, que je jump, il va falloir mettre une coupe de coussin parce que l'atterrissage, moi, dire de quoi, on appelle ça un atterrissage forcé.
Parfait, Père Noël, en terminant, où est-ce qu'on peut suivre tes activités?
Ah, checker ça comme faut, là, sur Père Noël Poker, sur Twitter, on peut me suivre, là, une couple de vidéos, là. J'ai même, là, cette semaine, checké bien ça, après le show de Droite au but, là, j'ai même une plaque souvenir de la table que j'ai faite en deux. Checké bien ça pour faire un beau petit vidéo pour vous autres, là. Fait que, vous en sortez une, la gang de Droite au but. Oh, et le Père Noël, il est revenu! Il est prêt à faire la party! Puis, on va donner un petit mot à Canadien, là. Moi, je l'ai aimé, Gallagher. Il en mérite une. On y en sort un autre pour lui. Gallagher! Et merci de nous écouter à travers la province de Québec. Je sais qu'on est rendu un peu partout, la soeur. Merci de nous écouter, puis envoyez-nous des petits commentaires. Puis oubliez pas, là, quand vous êtes à la maison, deux biens, par période, c'est toujours bon.
Notre prochain invité, vous l'avez connu en tenant le rôle de Mac Templeton dans la série culte Lance et Compte, et il est maintenant débatteur et animateur au 91.9 Sport. On accueille Éric Auziel. Éric, comment ça va?
Ça va très bien. On a hâte que l'hiver se termine.
Oh, oui.
On est raison.
Oh, ça n'a pas de bon sens. On aime le hockey, là, mais on est tanné de pelleter, comme on dit, là.
Non, mais on est aussi un petit peu tanné du Canadien.
Joke. Oui, c'est ça. On va en jaser tantôt. Éric, ouais. Avant de commencer, j'aimerais ça te faire écouter un extrait de Lance et Compte, première saison. On écoute.
Shut your goddamn trap, because you won't make it to the next game. No one's taking my spot. Jimmy Thompson won't be on my skates for a long Saturday. You can call me on that.
Yeah, you're gonna go and get him?
You bet.
Ça fait-tu un combat?
Only when I laugh. Goddamn table!
Éric, ma question. Est-ce que Mac Templeton et Éric Auziel, c'est le même caractère?
À cette époque-là, pas loin. À cette époque-là, oui, pas loin. Écoute, j'haïssais pas ça un petit peu, le jeu un peu rude, là, quand je jouais. J'ai joué au football, j'ai joué à la crosse, j'ai joué au hockey. Et c'est ça. Donc, pas à l'extrême de Templeton, là, qui était quand même quelqu'un qui semait la terreur. Là. Moi, c'était pas mon cas. Mais disons que je pouvais être assez impulsif aussi à ce moment-là, oui.
Éric, ça a été quoi de tourner? Oui, c'est quand même, je m'attendais pas à une réponse comme ça. Là.
Non, mais écoute, il y avait des choses que je pouvais auxquelles je pouvais m'identifier quand même à ce moment-là. Tu sais, je jouais pas, j'ai pas joué dans la Ligue nationale, j'ai pas joué junior majeur, mais à ce moment-là, j'étais un tout jeune homme, puis des fois, ben, je pouvais avoir des comportements là qui étaient dans le sport assez agressifs. Là.
Éric, ça a été quoi de tourner avec Marc Messier, Michel Forget, Karl Marotte et j'en passe? Je suis sûr que tu as plein d'anecdotes à nous raconter, là.
Oui, ça serait long. Écoute, on a commencé, nous, en août 85, à tourner ce qui devait être, en fait, un projet pilote qui devait être le premier épisode de L'Ancien Compte. Et on l'a tourné en français et en anglais. Ça devait être le National de Montréal à cette époque-là. Quand les premiers textes sont arrivés, ça s'appelait le National de Montréal. Mais quelques temps avant, la brasserie Molson venait de déplacer son siège social de Montréal à Toronto. Et à Toronto, ils ont jugé bon que le forum serait loué à peu près 20 ou 25 000 $ par jour de tournage, qui était énorme. Mm-hmm. Et ils ne se réalisaient pas que peut-être ça aurait pu être la bonne publicité pour eux d'avoir une série avec le Canadien. Et pas longtemps après, pendant les négociations, Marcel Aubut avait offert aux producteurs, écoute, nous, on peut vous offrir le Colisée gratuitement pour le nombre de jours de tournage que vous voulez. Alors, c'est comme ça que c'est devenu le National de Montréal qui est devenu le National de Québec.
Oui, quand même.
Et je pense qui quand même a été une bonne chose, parce qu'on n'aurait pas eu, on n'aurait jamais été capable de remplir le forum comme ça, le nombre de journées qu'on remplissait le Colisée. Je pense qu'on a eu accès à beaucoup plus avec les Nordiques. On avait accès à Michel Bergeron, on avait accès aux joueurs, on pouvait être dans le Colisée quand les gars avaient leur morning skate, et après ça, on embarquait sur la glace faire des jeux de les scènes de hockey. Fait que ça a été vraiment une très, très belle expérience. Puis parmi les acteurs que tu as nommés et d'autres, il y avait une vraie camaraderie, on était une vraie équipe et il n'y avait pas de hiérarchie. Des fois, quand tu en théâtre ou en cinéma ou même dans des séries TV, il y a parfois des hiérarchies. T'as ceux qui ont de l'expérience ou les premiers rôles qui se permettent des libertés que les plus petits rôles ne peuvent pas avoir. Dans L'Ancien Compte, on n'a jamais eu ça. Tout le monde a été traité avec égalité. Un premier rôle n'essayait pas d'avoir plus qu'un figurant ou un troisième rôle. Le troisième rôle, ce qu'on appelait les troisièmes rôles, c'était les joueurs du national qui complétaient l'équipe d'acteurs.
Les joueurs d'énergie, entre autres, comme toi.
Ben, non, des vrais joueurs de hockey. Des gars qui étaient des vrais joueurs de hockey, mais qui venaient faire soit les doublures, ou qui complétaient là, quand on faisait des séquences de hockey, parce que chaque séquence de hockey était tournée avec les acteurs, et après était tournée avec les doublures. Mais ça prenait aussi des joueurs qui faisaient les joueurs des autres équipes. Donc, il y avait des vrais joueurs de hockey, il y a eu quelques joueurs qui venaient de prendre leur retraite dans la Ligue nationale, des gars qui jouaient dans la Ligue américaine, ou des gars qui jouaient à cette époque-là dans ce qu'on appelait la Ligue senior. Donc, des bons joueurs de hockey, et ils venaient compléter, mais ils étaient avec nous aussi dans les autobus, ils étaient avec nous autres dans les vestiaires, ils étaient avec nous autres dans les avions. Ils faisaient partie des 20 joueurs du National.
C'était qui le meilleur joueur, barre oblique, acteur chez le National de Québec?
À travers toutes les années, je te dirais que le meilleur a sûrement été Rogozin.
Ah oui, hein?
C'est lui qui avait eu le plus... c'était probablement le meilleur que j'ai vu. C'était à la base un gars qui a joué quand même du gros hockey. À moins là que j'oublie un autre acteur, puis que je vienne perdre un ami, je pense que Rogozin était probablement le meilleur. Il n'y avait pas besoin de se faire doubler. Moi, j'avais pas besoin de me faire doubler, mais c'était des scènes surtout de bataille, tu comprends?
Ouais.
Alors, comme j'étais un gars qui avait fait beaucoup de sports de contact, j'étais capable de me débrouiller, de faire mes scènes moi-même. Mais sinon, Rock était un gars qui avait quand même une très belle agilité en patin.
Éric, j'aimerais ça qu'on jase de la saison du Canadien. Une saison, comme on dit, à oublier. Es-tu surpris des insuccès de la Sainte-Flanelle cette saison?
À ce point-là, oui. À ce point-là, oui. Je pense pas que personne pouvait prévoir que l'équipe était si chaotique que ça, que toutes les décisions, ou presque, de l'organisation sont devenus des échecs. Tu sais, on était tous... La planète hockey était assez positive à l'échange de Sergachev pour Jonathan Drouin, que ce soit les gens, les observateurs à Montréal et les observateurs autour de la Ligue. Tout le monde disait, écoute, le Canadien vient de mettre la main sur un excellent joueur de hockey, quelqu'un qui devrait vraiment là prendre son envol avec le Canadien, devenir un leader, puis ramasser peut-être 70, 75 et peut-être, qui sait, 80 points. Mm-hmm. Et rappelez-vous, on était au mois d'août, le camp d'entraînement approchait, on entendait qu'il y avait une bonne complicité entre Pacioretty et Drouin, qui s'était entraîné en glace tout l'été. Donc, tu sais, je veux dire, c'était prometteur. Ça a été vraiment... ça n'a rien donné. Et je pense que Jonathan Drouin n'est pas utilisé à la bonne position. Sergachev, bon, nous fait mal paraître, là, surtout les 30-35 premiers matchs. Depuis, c'est un peu plus difficile, c'était à prévoir. Qui avait prévu que Storm était... taillerait un poste et serait peut-être le joueur avec le meilleur jeu de pied à défense, tu sais, mais qui est quand même un jeune de 19 ans qui arrive dans une équipe qui a besoin de défenseurs qui mettent des minutes. Ça non plus, on le prévoyait pas. J'étais un de ceux qui n'étaient pas super triste, les gars, que Radulov ne soit pas signé. Ben, je me disais, son contrat la première ou deuxième année, on va être bien content, mais les deux, trois dernières années de son contrat, on va le regretter. Mais je pense qu'il manque cruellement aux Canadiens. Absolument. Son énergie.
Ah oui. Il est en train de nous faire mentir, là, un point par match pratiquement avec Dallas cette année.
Ouais. Ça, là-dessus, moi, j'avais dit, écoute, Bergevin, bravo de ne pas avoir cédé au chantage, mais encore une fois, une autre décision de l'organisation qui se retourne contre elle. Je pense que tôt ou tard, Markov, dans quelques semaines, aurait été exposé, aurait été vulnérable à la rapidité de la nouvelle Ligue nationale. Mais entre-temps, ses passes lumineuses nous manquent. Son jeu sur l'attaque à 5 nous manque. Carey Price a été ardu. Puis, on venait juste de lui donner un contrat pour de nombreuses années. Ça va être mis en question, ça aussi. Donc, tu vois, presque toutes les décisions de l'organisation sont pas douteuses, parce qu'à ce moment-là, je pense que l'organisation voulait vraiment faire, penser avoir un impact positif avec ces décisions-là. Mais ça n'a pas eu les résultats escomptés.
J'ai vu dans l'ancien compte que tu étais devenu moine. Puis tout ce que je vois à la télévision, ça doit être vrai. Donc, tu dois avoir une sagesse absolue. Si tu étais Marc non. Bergevin, à part retourner dans ton monastère puis te cacher, là, tu ferais quoi? Serais-tu vendeur ou acheteur?
Je vais vous répondre d'une autre façon, les gars. Et je me ferais pas d'amis non plus là. Je pense que Marc Bergevin ne devrait pas faire partie de la solution.
Mm-hmm. Intéressant. Sauf que là, le trade deadline, c'est dans deux semaines. Éric, est-ce que tu laisses faire Marc Bergevin et quand même piloter l'avenir du Canadien de Montréal? Qu'est-ce qu'on fait là? On est comme trop tard là, pour effectuer un changement?
Moi, je suis de ceux qui pensent que tu fais toujours des meilleures transactions et tu obtiens toujours une meilleure valeur de rechange au mois de juin et au mois de juillet que à la date limite des transactions. Tu payes souvent trop cher à ce moment-là. Et je veux dire, je vous donne un exemple, les gars. Le match Pittsburgh-Saint-Louis dimanche après-midi. Mm-hmm. Je regardais Pittsburgh. Oui, il pourrait facilement utiliser Pacioretty avec Crosby. Il jouait avec Simon et Prost. Tu te dis, bon, écoute, il devrait jouer avec un ailier de renommée dans la Ligue nationale, Sidney Crosby. OK, on va lui échanger Pacioretty. Mais je regardais dans cet alignement-là, qui pourrait revenir en retour, qui pourrait vraiment avoir un impact rapidement avec notre équipe? Ça nous prend un joueur de centre. Ça nous prend un joueur de centre dominant. Alors, on n'aura pas Malkin. Et on n'aura pas... Il n'y a pas d'autres joueurs de centre dans cette équipe-là qui peuvent venir combler les besoins qu'on a. Donc, moi, je pense qu'il y a quelques années, quand on a échangé Halak, qui était notre valeur la plus dispendieuse à ce moment-là, on a essayé d'aller chercher un joueur de centre qu'on pensait allait devenir notre joueur de centre numéro un. Ça n'a pas été le cas. Ouais. C'était quand même Larceller qui était un choix de première ronde. Et puis, on est toujours à la recherche de ce fameux joueur de centre important. Regarde Chicago, cette année, c'est plus difficile. Et moi, Jonathan Toews, que j'adore, je veux dire, je l'adore et j'ai énormément d'admiration pour lui. Il a perdu cette année, et même l'année passée dans les séries contre Nashville, il avait perdu une petite fraction de seconde au niveau de son jeu de pied. Et là, regarde, Chicago est en difficulté cette année, tu comprends?
Oui, puis en même temps, Jonathan Toews, là, je veux dire, il n'a plus les statistiques d'antan. C'est rendu un gars de 50 points par année, là.
Moi, je parle pas des statistiques, je parle des minutes. En fait, je faisais référence aux minutes que tu passes sur la glace.
Mm-hmm.
Il y a tes batailles à un contre un. Et gagner des batailles un contre un dans la Ligue nationale ou même dans les niveaux mineurs, c'est oui ta force, ta détermination, mais aussi c'est ta position, ton jeu de pied, comment tu te places pour quand tu arrives dans le coin. On l'enseigne aux jeunes, ça, toujours bien te placer pour pouvoir avoir l'avantage de ton adversaire dans tes batailles un contre un. Et là, contre Nashville l'année passée, c'était difficile, il était à bout de souffle parfois.
Éric, j'ai une question délicate. As-tu l'impression que le Canadien prend ses fans pour acquis?
Je pense pas que le Canadien prend les partisans pour acquis. Ce serait un mépris que je n'ose pas prêter aux Canadiens de Montréal. Je pense qu'il y a, dans l'organisation du Canadien, une philosophie qui est la suivante. C'est nous contre vous. Je m'explique. Nous, l'organisation, on est assaillis de tous, par tout le monde. Les journalistes, les réseaux sociaux, toutes les nouvelles plateformes qui voient le jour, la vôtre et d'autres, qui parlent du Canadien, et le Canadien est une cible facile. Alors, ils se sentent assaillis, c'est nous contre vous, tout le monde nous critique, donc on se referme et on devient de plus en plus opaque. Mais je pense pas qu'ils prennent les partisans pour acquis. Je pense pas.
Mais tu penses-tu qu'on devrait prendre l'exemple sur les Rangers de New York cette semaine qui ont été, qui ont mis carte sur table, ils ont dit exactement ce qui se passait. Je pense que peut-être que le Canadien devrait suivre ce modèle-là puis s'aller dans cette direction-là, non?
Un peu comme les Maple Leafs l'ont fait également il y a une couple d'années en disant on va rebâtir puis
on rebâtit puis tout le monde est à échanger, on commence la structure à la base.
Écoute. Si tu me demandes à moi, j'étais tout jeune, le Canadien de Montréal, là, c'était quelque chose pour moi. Je me couchais les soirs là, en écoutant les matchs à la radio, parce que je pouvais pas regarder la télévision, parce que je faisais me coucher. C'est Canadien, là, je vous un grand respect à cette organisation-là pour tout ce qu'ils ont fait. Présentement, oui, ce serait le fun d'avoir la transparence, mais pas ce type de transparence-là, les gars. Pas ce type de transparence qui nous dit, écoutez, on prend une lettre ouverte, puis on dit, oui, on scrappe la saison et tout ça. Ils sont pas obligés de le faire. Moi, ce que j'aimerais, c'est, je vous donne un autre exemple, un autre type de transparence et de respect envers les partisans. Quand Carey Price a signé son gros contrat cet été, là, ça m'a drôlement chalé qu'il ne se déplace pas à Montréal.
Absolument. Mm-hmm. Comme Piqué-Souban, je pense qu'il y a une couple d'années, même chose.
Ça m'a drôlement chalé. McDavid s'est déplacé à Edmonton, tu comprends?
Oui.
Le jeune Garoppolo vient de signer un méga contrat avec les 49ers de San Francisco. Il était présent. Ça ne s'est pas fait par appel de conférence. Cet été, quand Radulov et Markov, ça n'a pas fonctionné, on a eu des demi-vérités, on a eu des paraboles, on a eu, si tu veux avoir une fidélité, achète-toi un chien, des choses comme ça.
Oui.
On voudrait avoir un petit peu plus de transparence dans voici, on a offert tant et puis il voulait tant. Ça, tu sais, on a une version de Markov. C'est ce type de transparence-là que j'aimerais avoir de la part de l'organisation, mais pas nécessairement. Je m'attends pas à ce que les Canadiens nous disent hey, on la scrape la saison parce que, en quelque part, ça fait partie de son jeu de négociation avec les autres GM. Où il se situe, comment il se situe, puis je pense qu'à beau couvert, Claude Julien nous dit de toute façon.
Il nous reste environ 2 minutes à l'entrevue, Éric. Est-ce que tu vas suivre les Jeux olympiques de Pyeongchang?
Oui, écoute, oui, tout à fait. C'est plus difficile cette fois-ci, cette édition-là, à cause du changement d'heure.
Mm-hmm.
Mais on a quand même accès à plein de reprises et puis on peut voir, là, c'est très beau. On voit jusqu'à présent. Oui, je suis ça. Si tu me parles de tournoi de hockey masculin,
oui.
Parce que le tournoi de féminin, oui, je le suis parce que les meilleures joueuses sont là. Mais si tu me parles du tournoi masculin, je vais le regarder, mais avec un petit peu de scepticisme, parce que je me dirais l'équipe qui va remporter la médaille d'or ne sera pas nécessairement la meilleure équipe, peu importe le pays.
À part le hockey, quel autre sport t'intéresse?
Ski de fond, patinage de vitesse.
Alex Harvey.
Alex Harvey.
Holloway, ski de fond, c'est un sport extraordinaire que je pratique aussi.
Ah oui, tu le pratiques, oui.
Ouais, ski de fond, là, moi, ce que j'aime, c'est des athlètes qui se dépassent, autant des hommes ou des femmes. Les sports d'endurance, j'aime beaucoup ça. Le patinage de vitesse longue piste m'attire beaucoup plus que le courte piste. Donc, ce sont, je te dirais, les trois sports principaux que je vais regarder. Bon, le ski aussi, le ski alpin va être intéressant. Je suis un petit peu moins attiré par les sports qui sont émergents là, depuis une vingtaine d'années. Ski acrobatique,
le surf.
Bon, tout ça. C'est correct. J'apprécie la qualité des athlètes, là. Je ne remets pas ça en question, mais je suis plus old school, je te dirais. Mais c'est correct. Les goûts pour chacun, puis ça va être intéressant, ça commence. Puis je pense que le Canadien va faire belle figure. Le Canada, pardon, va faire belle figure. Puis je vais regarder les filles aussi. Je vais regarder les filles parce que il y a une fille là de l'Ontario que je connais des parents. Donc la jeune Stacy, je vais regarder ça avec attention.
Ça reste à suivre. Éric Oziel du 91.9 Sport, un gros merci d'avoir pris le temps pour le podcast Droit au but et j'espère qu'on se reparle bientôt.
OK les gars, merci beaucoup, merci de l'invitation puis longue vie à votre podcast.
Merci beaucoup.
Merci Éric.
You're listening to the best podcast in Montreal. Droit au but with your host Corino DeFalco and Jeff Dos Santos.
C'est le temps de jaser de boxe avec notre experte Nathalie Bruneau du réseau TVA. Nathalie, comment ça va?
Ça va très bien.
Nathalie, tu étais aux premières loges en fin de semaine concernant le gala présenté à Shawinigan avec comme combat principal l'Américain Alexis Santos face au Grizzly Simon Keane. Nathalie, ma première question, as-tu passé une belle soirée?
Écoute, ça faisait longtemps que je n'avais pas passé une belle soirée de boxe comme ça. C'est rafraîchissant, ça fait du bien. On a de la montadine de bonne boxe au Québec. On a des bons boxeurs. Souvent, trop souvent, on a des galas de boxe qui sont peut-être moins bien organisés, qui nous donnent l'impression que notre boxe n'est pas aussi intéressante. Et hier, je te dirais qu'on avait tous les ingrédients pour faire lever le gâteau et nous donner une boxe incroyable, une soirée de boxe comme on en mériterait tout le temps. Et puis, ça réconcilie avec beaucoup de choses, beaucoup de petits pépins qu'on peut avoir dans le monde de la boxe au Québec. Et puis, ça fait beaucoup de bien. On a eu des bons boxeurs, des beaux boxeurs à avoir boxé, des beaux combats, des oppositions à la hauteur. Mm-hmm. Vraiment, ça fait du bien.
Nathalie, tout d'abord, je veux te parler du combat de Simon Keane. Keane qui a notamment envoyé Alexis Santos au pays des rêves au 8e round. Ton commentaire?
Écoute, on a eu peur. Hein? Moi, j'ai eu peur. Je dis « on », là, mais j'ai eu peur parce que moi, je le voyais sur le bord du ring où il perdait sa concentration. Il était très focus. Il fixait beaucoup. Puis il fait ça en entraînement, Simon Keane aussi. Hein? Il fixe beaucoup. Il a l'air très, très concentré. Il fixe, mais il est pas là. Aussitôt qu'il y a quelque chose qui bouge à côté, l'arbitre, n'importe quoi, il va tourner le regard. Whoop! Non, il faut qu'il se concentre. Son entraîneur, il faut qu'il lui crie du coin. Concentre-toi, vas-y. Et puis, il s'est arrivé à plusieurs reprises hier. Et à un moment donné, Santos a eu le dessus sur lui. Il a placé quelques bons coups. Et on a eu peur. Et à un moment donné, je pense qu'il s'est réveillé. Là, puis dans son coin, son entraîneur lui a dit, là, Jimmy Boisvert. Puis là, il a repris le contrôle de la situation. Puis c'est là qu'on a vu de la victoire. Puis tant mieux. Et là, il nous a montré enfin ce qu'il savait faire, comment gérer une concentration, un stress et comment gérer un adversaire qui était enfin à la hauteur. Mm-hmm. Parce qu'il était assez coriace, Santos, hier. Franchement, il était pas là pour mettre le genou par terre. Il était là pour se battre. C'est un guerrier. Et je l'ai rencontré, Santos, avant le combat. Puis il était franchement déterminé. Je me suis dit, ouais, je pense que Simon va avoir une dure soirée ce soir. Et c'est effectivement ce qu'il y a eu, mais heureusement, avec son talent et son équipe, il a réussi à aller jusqu'au bout.
Nathalie, après le combat, Simon Keane a mentionné qu'il souhaiterait affronter le Canadien Adam Braidwood dans un avenir rapproché. Qu'est-ce que tu en penses?
Souhaitons que ça se fasse. Là, on dirait que ça commence à ressembler à Stevenson Alvarez, cette histoire-là. On en entend parler, on en parle, les négociations n'achoppent pas, tout ça. Mais je suis tombée là-dessus hier soir. Vous irez voir sur le Twitter de Braidwood. Il est avec sa mère et sa mère s'adresse à Simon Keane en lui disant « Mon fils va te botter le derrière
oh. ».
C'est tellement drôle. Alors là, il a l'habitude de faire ses vidéos et d'intimider Simon Keane en public comme ça seul, mais là, il a intégré sa mère. Ça devient vraiment une comédie. C'est vraiment drôle.
Wow, les hostilités sont lancées.
Exact. Mais au-delà de ça, il faut parler de boxe à un moment donné, signer les contrats et puis aller dans le ring. Soit tant que ça se fasse.
Effectivement. Nathalie, les spectateurs qui se sont allés chercher un rafraîchissement concernant le combat de Stephen Butler, ben ils ont manqué toute l'action. C'était pas long dans son cas.
Tant pis pour eux.
Et pas là.
Ils le regarderont en reprise à TVA Sport. Non, mais Stephen Butler, en presque 2 minutes du premier round, il a le coup fatal. C'est du Stephen Butler tel qu'on le connaît. Cependant, je te dis une chose. J'ai eu des commentaires, des gens qui m'ont écrit après, des amis, des connaisseurs, et j'ai parlé à d'autres qui m'ont dit « Oui, moi aussi, j'ai entendu ça ». On va l'appeler, je pense, désormais le coup fantôme, parce que il y a beaucoup de gens qui l'ont revisionné, ce coup-là, et qui me disent, malheureusement, j'ai pas eu la chance de le revisionner encore, mais je vais le faire, qui me disent « On ne voit même pas l'impact. On voit pas où que ça frappe si fort, on voit pas que ça frappe, on voit pas... » Alors, on l'appelle en ce moment le coup fantôme. Alors, on va voir ce que ça va donner. Là, je vais aller revisionner ça. Mais honnêtement, je ne doute pas du coup puissant et sec et dévastateur que Stephen Butler a pu donner, parce qu'on l'a vu par le passé, il est capable d'en donner. Là.
Oui, parce qu'à la reprise, on dirait que son opposant esquive le coup.
Ben, c'est ça, tu sais. Alors, je sais pas, mais en même temps, c'est des coups qui se passent à une vitesse tellement phénoménale que tu dis, tu sais, est-ce qu'on peut vraiment tout voir? Est-ce qu'il y a, parce que dans la mâchoire, là, il y a un nerf qui passe, puis quand tu atteins ce nerf-là, là, c'est fini, là, t'es knock-out, là. Alors, il s'agit d'y aller à la bonne place, au bon moment, à la bonne force. C'est un calcul mathématique tellement précis qui fait que c'est fulgurant, que bon, c'est des calculs trop rapides, mais bon, moi je ne doute pas de ce coup-là, là, que ce coup-là ait pu. Je pense pas que le Gonzalez se soit mis à terre comme ça. Non, vraiment pas, mais bon. C'est une très belle performance. Et là, moi, je veux te parler surtout de Francis Lafrenière, qui ça se jase là, que le prochain combat de Stephen Butler pourrait être celui de Lafrenière. Moi, Lafrenière, je l'ai appelé hier matin. En fait, samedi matin, avant le combat, pour lui demander ses impressions. La négociation est toujours en cours, mais c'est très difficile. Les deux camps, Rixa Promotion et Eye of the Tiger Interbox, là, se tirent la couverture de leur côté, chacun de leur côté. C'est toujours de l'intimidation, peut-être aussi, comment ça se passe. C'est « Ouais, mais ton boxeur n'est pas si bon que ça », puis nanana, puis finalement, non. Fait que ça joue dans la tête pour faire céder l'autre camp. Et là, après le combat d'hier, je vous invite à aller sur Boxing Town, là, sur le Facebook de Boxing Town, OK? Où ils font une entrevue one-on-one après le combat avec Camille et Stéphane, où il dit « Non, finalement, Lafrenière ne m'intéresse plus. Ça nous intéresse plus. Il est plus à la hauteur. Avec la performance de Butler ce soir, on se rend compte que Stephen a besoin d'avoir un adversaire beaucoup plus de haut calibre que Lafrenière. » Alors, est-ce que là, les négociations vont achoper, ou si ça va se poursuivre, ou si c'est juste pour un peu une stratégie de négociation de dire ça? Je ne sais pas, mais sincèrement, honnêtement, j'espère qu'on va voir, parce que la carte l'as qu'il y a dans sa manche, là, Lafrenière, c'est la ceinture. Parce que là, il y aurait une ceinture NABO en jeu. Lafrenière, lui, il y a déjà la ceinture IBF internationale, mais la ceinture qui serait en jeu contre Stephen Butler, il la mettrait, c'est la NABO, qui ferait monter Butler dans le top 15. Alors, c'est pas à négliger ça dans une négociation.
Ça reste à suivre. En terminant, Nathalie, le combat que j'ai apprécié a été celui entre l'Albertain Cam O'Connell et Mathieu Germain. À un moment donné, j'ai revu des flashs de Mickey Ward contre Arturo Gatti. Qu'est-ce que t'en penses?
C'est drôle parce que Germain, il dit ça aussi. Il dit « Moi, je vais vous donner des combats comme Mickey Ward et Arturo Gatti.
»
Et Mathieu Germain, à moins que je me trompe, là, j'ai un gros week-end. Là. Mathieu Germain, lui, c'est son premier combat télévisé comme ça. Et il le méritait. Je trouve qu'il n'a pas assez de visibilité. Il donne tellement des bons combats de boxe. Il a travaillé tellement fort. Il a travaillé son crochet. Il l'a utilisé là ad nauseam. Il l'a utilisé beaucoup, beaucoup pendant le combat et ça donne vraiment des belles shots. Et il a vraiment, vraiment donné une belle performance. Et souhaitons qu'on le voit encore plus et que ça lui donne de la crédibilité aux yeux des partisans. Je te dis, aux yeux des partisans, pas aux yeux des connaisseurs, parce que les connaisseurs le savent à quel point il est bon. Puis à quel point il est fun à voir.
Non, c'était vraiment un beau spectacle. C'était coup pour coup là, contre Cam O'Connell.
Exact, exact. Alors, souhaitons que Eye of the Tiger lui donne sa chance encore une fois comme ça, puis dans un futur pas si lointain.
En terminant, Nathalie, qu'est-ce qu'on surveille cette semaine?
Ben là, il y a le gala de boxe groupe Gym au Casino de Montréal. Il y a Steve Bossé qui va faire ses débuts professionnels. Steve Bossé qui est un sportif, qui a déjà fait du MMA, qui a fait du hockey et tout ça, qui était le goon, là. Alors, il fait ses débuts professionnels. Alors, on aura l'occasion également de voir Zuski et Marie-Ève Ducaire. Alors, on a hâte de voir ça jeudi prochain au Casino.
Ça promet. Nathalie, un gros merci, puis on se reparle la semaine prochaine.
Au plaisir.
On va rejoindre notre expert de sport universitaire, Serge Vlaminck. Serge, comment ça va?
Ben, comment veux-tu que ça aille pas bien après avoir vu un match extraordinaire vendredi soir à Concordia?
Ben justement, Serge, encore une fois cette semaine, tu as assisté à un grand match de hockey entre les Redmen de McGill et les Stingers de Concordia, je crois. Raconte-nous donc ça, là.
Ça, c'est un match annuel qui oppose les deux équipes montréalaises dans le cadre de la Coupe Ronald Coré. Je peux te dire une chose, là. L'ancien président du Canadien aurait été honoré d'avoir son nom collé à ce match-là. C'était un match de la Ligue américaine de hockey. Écoute, juste une petite anecdote, là. En première période, là, je pense qu'il y a eu 6 arrêts de jeu, dont 2 pour des buts, puis 2 pour des punitions. Je pense que seulement il y a eu 2 hors-jeu. Ça patinait, ça frappait. De chaque côté, tu avais des gars brillants, Carmel du côté de Concordia avec Anthony Beauregard. Anthony qui a fini d'ailleurs premier compteur au pays avec 19 buts, 41 passes, 60 points. Et de l'autre côté, la venue de Nicolas Brouillard. Lui, il a gagné, ce qu'on me dit, 2 fois le championnat des compteurs chez les défenseurs dans Ligue junior majeure du Québec. Écoute, c'est le Bobby Orr ou le Carlson des temps modernes. Mm-hmm. C'est un défenseur offensif extraordinaire. Jumelé à ça, Dominique Tadbottessi, qui est un défenseur fantastique. Alors, écoute, ça a été un match. Moi, je te dis, là, tu réunis des étoiles de Trois-Rivières, McGill, Concordia, puis on joue un match contre le Rocket de Laval n'importe quel temps.
Serge, s'il y avait des membres de l'organisation du CH à l'écoute, qu'est-ce que tu aurais le goût de leur dire?
Mais j'aurais le goût de leur dire qu'ils ne fassent pas la même gaffe qu'il y a quelques années, quand il y avait Mathieu Darche dans leur cours, puis qu'ils ne l'ont pas vu pendant 4 ans. Puis je pense que Mathieu Darche a quand même joué 11 ans dans le circuit professionnel. Il a joué 3 ans avec les Canadiens. J'espère qu'ils ne feront plus les mêmes gaffes. Et je peux te dire une chose, là, le hockey universitaire québécois et canadien s'est amélioré. Il est temps que les équipes professionnelles se penchent sur ce dossier-là. Et ils devraient organiser à chaque année un match préparatoire dans le camp d'entraînement contre les étoiles du hockey universitaire québécois. Puis je te jure, tu aurais un maudit beau match de hockey.
Serge, pour leur part, les Patriotes de l'UQTR ne participeront pas aux séries éliminatoires en raison notamment d'un joueur inéligible. Par contre, je pense que tu veux nous parler d'un autre incident impliquant un joueur inéligible.
Oui, bien, ça touchait l'Université des Stingers de Concordia. Et ça, c'est une situation complètement absurde. Un, oui, Trois-Rivières a commis une erreur. Bon, on a parlé du dossier Trois-Rivières. Maintenant, Concordia. Concordia n'est pas pénalisé parce que leur joueur n'a pas joué, après le 10 janvier, a joué pour une autre équipe que les Stingers de Concordia, mais dans une ligue qu'on juge communautaire. Autrement dit, en termes polis, une ligue de garage ou une ligue de bière. Ça, tu peux faire ça pour aller chercher un joueur. Mais tu peux pas aller chercher un joueur dans le junior 3A. C'est quoi cette mentalité-là? D'ailleurs, tout le monde dit que c'est un règlement devenu complètement stupide, qu'il faut le revoir. Moi, ce qui me fascine, c'est que ces penseurs du niveau universitaire ne sont pas capables d'être assez intelligents pour voir les changements de règlement. Ça aurait dû changer ce règlement-là depuis des années. Alors, le résumé de ça, Trois-Rivières, une belle équipe de hockey, pénalisée pour avoir utilisé un joueur du calibre junior 3A inférieur, alors que l'autre n'est pas pénalisé parce qu'il utilise un gars qui joue dans une ligue de bière. Il y a quelque chose d'absurde. Au contraire, on devrait, il n'y a pas d'équipe ferme pour les équipes universitaires. On devrait demander aux juniors 3A de s'associer au hockey universitaire, d'avoir quelque chose de positif. Ceux qui prétendent que le hockey doit tenir entre les mains du sport étudiant, du monde étudiant pour le développement du hockey au Québec, ça me fait peur un peu quand je vois de la manière que c'est géré par moment. Voilà.
Serge, peux-tu nous expliquer c'est quoi le format des séries éliminatoires au hockey universitaire?
Alors, c'est, je vous dis, messieurs, c'est quasiment du football. Alors, les 8 premières équipes font les séries éliminatoires, 1 contre 8, 2 contre 7, etc. Et toutes les séries sont des séries 2-3. Et là, ça s'amène à une finale de la Coupe Queens. Et ça dépend des années, là. Parfois, l'Ontario et le Québec inclus, alors, ça inclut Québec, ont 2 représentants au championnat canadien. Des fois, c'est 3 représentants. Ça varie tout le temps. Mais en principe, au niveau de l'Ontario, c'est de chaque côté, il y a 2 conférences. C'est des 2-3. Et à la fin, il y a le tournoi de la Coupe Queens, qui ce sont des équipes, les meilleures équipes de chacune des conférences qui se rencontrent. Encore là, la formule change à chaque année. Là, je ne commencerai pas à vous donner les formules de chaque année. Mais grosso modo, pour ce qui est actuellement de la section Est de la Ligue de l'Ontario et Ouest, c'est des séries 2-3 partout.
Serge, Marc-André Hélément a fait une grosse acquisition pour les Stingers de Concordia. Cette fois-ci, non pas sur la glace, mais derrière le banc. C'est Jim Corsi qui se joint à l'équipe d'entraîneurs des Stingers. C'est quoi tes commentaires là-dessus?
Ben, écoute, j'ai rencontré un bonhomme. D'abord, Jim revient à ses anciennes amours. Il a gardé les buts des Stingers de Concordia dans la saison 1975-1976. Il a aujourd'hui 63 ans. Et je lui ai demandé, pourquoi revenir à Concordia? Il dit, écoute, une fois que son entente avec les Blues de Saint-Louis s'est interrompue au milieu de la saison dernière, il devenait joueur autonome et il a vu le sérieux entourant les Stingers de Concordia. J'ai demandé, c'est quoi la différence entre ton temps et aujourd'hui? Il dit, écoute, on était des bons joueurs de hockey, mais jamais que c'était le même encadrement, jamais on avait un personnel d'entraîneur aussi prêt, avec des techniques modernes. Puis, quand j'ai vu le sérieux impliqué par Marc-André Hélément dans ce programme-là, j'ai décidé d'embarquer. Ça, je suis enthousiaste. Il dirige les gardiennes de but de l'équipe féminine des Stingers. Et également, il est le mentor des équipes de soccer. Fait qu'il est bien occupé, mon Jim. Mais il adore ça. Il en est malade.
Serge, qu'est-ce qu'on surveille cette semaine sur la scène du sport universitaire?
Ben moi, je vais me concentrer sur le basketball universitaire. Mardi, un match important. C'est que le Rouge et Or est en train de remporter le titre de la saison régulière devant les Marlins de McGill, et les championnes canadiennes en titre. La formation de Guillaume Giroux là, a des ailes. C'est passionnant de la voir aller. Elle devrait terminer première. Et Guillaume Giroux me disait, le fait de finir premier qu'on reçoit à la maison les séries éliminatoires, c'est beaucoup de sous parce que le budget du basketball est indépendant de l'université. Là. Il faut qu'il s'autofinance. Et quand tu as de bonnes foules, ça peut être entre 1500 et 2000 spectateurs quand tu finis chez vous. C'est très, très important sur l'aspect économique du programme. L'autre chose que j'ai regardé avec intérêt, c'est les Carabins de l'Université de Montréal en volleyball féminin qui connaissent une saison fantastique. Et il y a également les Carabins au hockey féminin. Ça va être la bataille là, pour la première position avec les Stingers de Concordia dont les gardiennes sont dirigées par Jim Corsi. Mm-hmm. Alors, ça va être une fin de semaine passionnante.
Excellent, Serge. On s'en
reparle. J'oubliais. Les séries éliminatoires, ça commence mercredi. Et les Stingers de Concordia s'en vont jouer à l'Université de OUIT. C'est là qu'il y a eu les gestes de
violence. Oui.
Le dernier match entre les deux équipes. Ça va être à surveiller mercredi. Et ils s'en viennent à Montréal vendredi et samedi pour les matchs 2 et 3 si nécessaire.
Oh, ça risque de brasser.
Oui, monsieur, ça va brasser.
Serge, un gros merci, puis on se reparle la semaine prochaine.
Merci, monsieur.
On s'en va retrouver notre expert soccer, Antonio Ribeiro. Tony, comment ça va?
Ça va bien, et toi?
Oui, ça va bien.
Super.
Écoute, Antonio, l'Impact de Montréal a signé une victoire de 2-0 lors de son premier match pré-saison face à Las Vegas, une équipe d'expansion de la USL. Après le match, tout le monde semblait satisfait du résultat. Il y a notamment le gardien de but, Evan Bush, qui a mentionné que l'équipe a été solide défensivement. C'est quand même encourageant de voir que l'Impact n'a rien concédé lors de son premier match. Est-ce que tu penses que c'est dû notamment à la bonne condition physique des hommes de Rémi Garde?
Ben, c'est encore un petit peu tôt pour dire exactement si c'est vraiment une condition physique ou pas. Mais c'est sûr que l'équipe doit avoir un équilibre autant physiquement, autant sur le terrain, autant la chimie doit tranquillement se mettre en place. Mais aussi, il faut tenir compte que c'est pas un match de deux équipes de MLS qui s'affrontaient. C'est vraiment une équipe qui a un peu plus de moyens que l'autre équipe. Mais c'est quand même important d'aller chercher cette victoire-là, de pas se faire marquer, de commencer tout de suite à prendre les bonnes habitudes, puis peut-être commencer plus petit, puis éventuellement affronter des équipes beaucoup plus intéressantes.
Donc, je crois que c'est un très bon départ pour eux. Et en même temps, ben, pour tout, autant les coachs, autant les joueurs, autant les préparateurs physiques, coach de gardien de but, c'est leur premier match où ils peuvent vraiment juger de comment que l'équipe est rendue, qu'est-ce que l'équipe a besoin d'ajuster. Voilà, moi, je pense que c'est très important. Puis, si on gagnait 2-0, ben, c'est l'idéal parce que là, on finit sur notre positif. Puis les joueurs, ben, c'est toujours important de ne pas se faire marquer et de marquer des buts. Donc, de prendre des bonnes habitudes de jeu.
Antonio, si tu le veux bien, on va jaser de la Ligue des champions qui reprend cette semaine, notamment du choc entre le Real Madrid qui reçoit dans le match aller le Paris Saint-Germain mercredi à 15h. Ça devrait être tout un match en perspective.
Oui, et crois-moi que je ne vais pas le manquer ce match-là, mais oui, ça va être un match super intéressant. Paris Saint-Germain avec l'acquisition de Neymar qui fait fureur en France en ce moment. Paris Saint-Germain aussi qui joue contre les équipes là-bas en France et ça finit pas des 1-0, c'est vraiment des 4, des 5, donc des gros scores, une équipe qui est vraiment au-dessus. Mais là ils vont affronter Real Madrid qui est une équipe également qui est beaucoup de talent, beaucoup de joueurs, beaucoup de richesse aussi comme équipe. Donc, ça va être intéressant de voir comment que le Paris Saint-Germain va pouvoir contrer ou arrêter le Real Madrid ou comment qu'ils vont aller chercher des points. Donc, ça va être un match super intéressant. En même temps, faut tenir compte que le Real Madrid n'y est pas à sa meilleure saison à la Liga. Donc, espérons que au moins la Ligue des Champions, ils vont un peu plus ressortir puis être un peu plus dominants parce qu'en ce moment dans la Ligue, ça se passe pas vraiment bien, autant pour Ronaldo qui a de la misère, qui pourrait même s'acheter des buts parce que ça va pas bien pour lui. Donc oui, alors l'équipe qui a besoin de faire bonne figure au niveau international. Donc espérons que le Real Madrid va être aussi présent pour ce match-là. Ça va être un très bon match à voir.
Je pense que Ronaldo garde ses énergies pour cet été.
Ça reste à voir.
Mais bon,
oui, c'est ça. Des fois, les joueurs, quand ils sont pas contents ou quand ils veulent partir, ben ils arrêtent de jouer tout simplement parce que quand tu regardes, deux ballons d'or une année après l'autre, ils marquent des buts comme s'il n'y a pas de problème. Puis là, tu arrives à une année où est-ce qu'il n'y a rien qui marche. C'est quasiment impossible à croire. Mais il y a tout de suite après, tu entends des rumeurs comme quoi qu'il n'est pas bien, qu'il veut partir, etc. Donc, à suivre, mais c'est sûr que match intéressant, puis j'espère que les deux équipes vont se présenter pour jouer.
Antonio, dans les autres matchs à surveiller, la Juventus reçoit Tottenham et Chelsea reçoit, attention, le FC Barcelone. Wow, on dirait des finales.
Effectivement, c'est des matchs, en fait, que autant le Paris Saint-Germain, Real Madrid, qu'on vient justement d'en parler, c'est toutes des équipes qui peuvent se retrouver en finale, et c'est toutes des équipes qui peuvent gagner la finale. Donc oui, on pourrait se dire que cette semaine, ça va être une semaine de finale de Champions League. En fait, on va sûrement voir l'équipe qui va passer ce tour-ci probablement en finale parce que c'est vraiment des équipes avec de très bons joueurs, avec une bonne profondeur, avec du bon soccer. Donc ça va être très intéressant à suivre. Barcelone, toujours fidèle à son jeu extraordinaire, donc c'est toujours le fun d'aller voir jouer. Chelsea, c'est une équipe qui lâche pas, ils ont des très très bons joueurs aussi, ça va bien pour eux en Premiership, donc Juventus, Tottenham, gros match aussi, Tottenham, que ça va super bien, c'est une équipe qui est quand même constante, il y a quelques temps, ils avaient battu le Real Madrid, donc faut faire attention, c'est des équipes qui sont capables de créer des surprises, et il ne faut pas sous-estimer personne. Donc, ça va être des très bons matchs cette semaine.
Antonio, je ne peux pas te laisser partir sans parler de nos amours qui vont jouer. En plus, la journée de la Saint-Valentin, Porto reçoit Liverpool. C'est quoi tes commentaires là-dessus?
Moi, je suis de la région de Porto, au Portugal. Donc, c'est sûr que j'appuie, j'encourage l'FC Porto. C'est une équipe que ça fait un petit bout de temps qu'ils n'ont pas fait bonne figure dans la Champions. Donc, ça va être intéressant pour eux de faire quelque chose contre une grosse équipe comme Liverpool. Liverpool, ils ont des très bons joueurs. Poste par poste, ils devraient être beaucoup plus forts que le FC Porto. Mais quand même, je crois que pour les jeunes qu'ils ont, FC Porto, c'est une équipe au Portugal qui fait beaucoup de ventes de joueurs. Mais ils ont quand même des très bons joueurs. Ils font des bonnes acquisitions. Donc, ça va être un match intéressant. Et puis, pour les joueurs en tant que tels, de jouer contre une équipe comme Liverpool, c'est pour eux, c'est une bonne visibilité. Donc, ils ont beaucoup à se prouver aussi à ce niveau-là. Et en même temps, ben, vu que ça se passe au Portugal, ben, ils ont intérêt à bien jouer parce que sinon, les médias vont pas les lâcher le jour d'après. Fait que, on sait comment ça fonctionne. Donc, voilà. Moi, j'aimerais un petit 3 points pour le FC Porto.
On surveille ça cette semaine. Antonio, un gros merci, puis à la semaine prochaine.
Super, merci, bonne soirée.
Merci.
Jeff, c'est déjà la fin de l'émission, le 21e du podcast Droit au but. Ça passe vite, cette émission-là.
Écoute, on s'en va tout le temps dans des nouvelles directions. On apprend des nouvelles affaires dans tous les domaines. Des intervenants intéressants. C'est fun.
Oui, soyez à l'écoute la semaine prochaine. On parle notamment de kickboxing.
Oui, un sport qui était si populaire au Québec dans les années 80.
Oui, ça revient peu à peu. Il y a un gars-là qui s'en vient au Casino de Montréal, notamment.
Oui, tout à fait.
Bon, amène ta pelle, là, on s'en va pelleter.
Oh, come on.
Ben oui, c'est le temps. Bye-bye tout le monde, à la semaine prochaine.
Salut.